إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا نقرأ كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى. وصلنا إلى باب جديد إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن السلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوص به معروفا، فأعتقه، فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته. فهذا الحديث حديث حسن. أبو غالب هو صاحب أبي أمامة، وروى عنه حديث الخوارج، صدوق يخطئ، والحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. طيب. Donc on passe au chapitre suivant du livre الأدب المفرد de l'imam البخاري رحمه الله تعالى avec le شرح de Cheikh Raslan Hafidhahullah. Et on est arrivé donc à un nouveau chapitre intitulé le chapitre le pardon envers le servant, yani envers l'esclave servant. Donc il dit l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Hajjaj nous a rapporté, rapporté, c'est Hajjaj ibn Minhal rahimahullah qui a dit, Hammad ibn Salama nous a rapporté et a dit, Abu Ghalib nous a rapporté, selon Abi Umama qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et avec lui il y avait deux esclaves, deux servants. Il a offert l'un d'entre eux à Ali radiallahu anhu et a dit, ne le frappe pas, on m'a certes interdit de frapper les gens de la prière et je l'ai vu prier depuis que nous sommes arrivés. Et il a donné le second à Abu Dharr radiallahu anhu et il lui a dit, écoute mon conseil qui est donc d'être bienfaisant envers lui. Donc Abu Dharr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré l'esclave, il a affranchi cet esclave. Et le prophète, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, Abu Dharr de répondre, tu m'as ordonné d'être bienfaisant envers lui, alors je l'ai affranchi. Alors je l'ai affranchi. Donc ce hadith, il est hassan. Il est bon. Et donc Abu Ghalib, donc l'un des rapporteurs de ce hadith, c'est un des compagnons de Abi Umama. Et donc il a rapporté également d'autres hadiths de Abu Umama, notamment des hadiths concernant le Khawarij. Et c'est un rapporteur qui est sadour, qui est véridique, mais il fait des erreurs. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'autres variantes, d'autres chaînes de transmission du même hadith pour pouvoir confirmer les hadiths de Abu Ghalib. Donc ce hadith-là, il a été également rapporté par l'imam Ahmed, ainsi que Al-Tabarani dans Al-Kabir. Taïeb. Ma'an al-kalimat, istawsi bihi ma'roufan. Ay, taqabbal wasiyati fihi bil khayr. D'accord? Donc là, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à Abu Dharr, istawsi bihi ma'roufan, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepte ma recommandation envers lui, qui est donc d'être bienfaisant en sa faveur. Accepte ma recommandation. C'est ce qu'a fait donc Abu Dharr totalement, car il a même affranchi. طيب ما فعل اي ما فعل الغلام الذي وهبتك اياه. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'est-ce qu'il a fait, ça veut dire qu'est-ce qu'a fait le servant que je t'ai offert. ثم قول الراوي لعلي صلوات الله عليه وقد مر هذا في حديث قبله والحق أن أهل سنة لا يستعملون هذا بل إنهم لا يفردون عليا رضي الله عنه بقولهم كلما ذكروه الإمام علي لا ولا يقولون كما تقول الشيعة كرم الله وجهه ولا يفردونه بالصلاة عليه على هذا النحو ولكن لعل الإمام البخاري رحمه الله إنما ذكر ذلك على حسب ما وصل إليه فلا تثريب عليه رحمه الله تعالى. Donc ici la parole de l'auteur ou plutôt du transmetteur du hadith lorsqu'il dit et le prophète a donné l'un d'entre eux à Ali, puis il a dit salawatullahi alayhi. Salawatullahi alayhi. Hein? C'est-à-dire que les éloges d'Allah soient sur lui. Et on a déjà vu donc le jugement du fait de donner cette spécificité à la mention de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui est de dire à chaque fois que l'on dit, que l'on mentionne le compagnon Ali, de dire salawatullahi alayhi, que les éloges d'Allah soient sur lui. Alors que vous savez que cette doua, normalement, elle est spécifique au prophète et au messager, alayhimus salatu wassalam, et ce conformément au livre d'Allah, tabarak wa ta'ala. Tayyib. Donc, ce qui est la vérité, ce qui est correct, est que les gens de la sunna ne disent pas cela, n'utilisent pas ce genre de dua pour Ali. Tayyib. Ou comme certains disent à chaque fois qu'ils mentionnent Ali, ils rajoutent Al-Imam. Ils disent l'imam Ali, l'imam Ali, l'imam Ali. Là. Ils ne disent pas non plus ce que disent les Shia. Quand ils mentionnent Ali, les Shia disent Karram Allah wajha. Qu'Allah honore son visage. Et ils ne singularisent pas Ali non plus en faisant à chaque fois une dua يعني en demandant les éloges d'Allah tabarak wa ta'ala sur lui, comme cela a été fait ici. Mais pourquoi donc l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a mentionné ce genre de dua ici? Il dit, ben, c'est tout simplement pour respecter la façon dont on lui a transmis le hadith. D'accord? Donc al-Bukhari, lorsqu'il transmet un hadith, il transmet exactement comme on le lui a transmis. Donc, vu que le transmetteur, lorsqu'il lui a transmis le hadith, il a dit li Ali salawatullahi alayhi, eh bien, al-Bukhari a rapporté de la même manière salawatullahi alayhi. Donc, bien sûr, ici, il n'y a rien à reprocher à l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Fahada innama huwa min fi'li shi'a wa min qawlihim. Min qawli al-rawafid hum alladhina yathkuruna آل البيت فيأتون بالصلاة عليهم وربما بالسلام عليهم إفرادا يعني من غير أن يكونوا تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم لأننا إذا قلنا صلى الله عليه وآله وسلم دخل فيهم جميع آله بل إن القول الراجح عند المحققين من أهل العلم أن الآل إذا ذكر مفردا غير مجموع مع الصحب فإنه حينئذ يدخل فيه كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان فهو من آله بهذا الاعتبار. Donc ce genre de paroles en vérité fait partie des actes et des paroles des chiites et des paroles des rawafid, ceux qui singularisent la famille du prophète عليه الصلاة والسلام, hein, par cette dua qui est donc de demander à chaque fois les éloges sur eux d'Allah tabarak wa ta'ala, et peut-être même le salam, la préservation pour eux de manière individuelle, comme on le fait pour les prophètes et les messagers, lorsqu'on dit Adam alayhi salam, lorsqu'on dit Nuh alayhi salam. Donc ils vont dire la même chose mais pour les gens de la famille du prophète alayhi salat wa salam, sans que ce soit yani, quelque chose qui, ou une dua qui va suivre celle que l'on fait pour le prophète, alayhi salatu wassalam, hein, que l'on peut faire par exemple lorsqu'on on invoque pour le prophète, lorsqu'on le mentionne, on va dire sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ça on peut le faire, d'accord? Donc tu demandes, quand tu mentionnes le prophète, tu peux demander les éloges d'Allah ainsi que le salut pour le prophète, et tu peux le faire en même temps pour sa famille également, hein, et pour tous ceux qui le suivent dans sa sunna. Taïeb, et il dit le cheikh que la vie, bien sûr, la vie qui est prépondérante en plus, c'est que, comme l'ont dit les vérificateurs et les examinateurs des gens de science, ils ont dit que le terme LL, lorsqu'il est cité tout seul, de manière isolée, sans qu'il y ait la mention des compagnons avec, eh bien, rentre dans le terme LL, tous ceux qui suivent la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la bienfaisance et dans la rectitude. Donc, tous ceux qui suivent la voie du prophète, dans la bienfaisance, dans la rectitude, eh bien, il fait partie de son L. Le terme L ici, par rapport à cette perspective. Par rapport à cette perspective-là, lorsque le terme L est mentionné sans le terme Sahb, les compagnons, rentrent dedans tous ceux qui suivent le prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'excellence et sur la vérité. ما يؤخذ من الحديث أولا الحث على الرفق بالخادم وعدم التضجر من فعله. Première chose que l'on tire du hadith, l'incitation à être gentil avec le servant, avec l'esclave, et de ne pas s'impatienter ou être exaspéré de ce qu'il pourrait faire. الثاني الحث على العفو عنه عند الخطأ. Deuxième chose, l'incitation à lui pardonner lorsqu'il commet une erreur. طيب ثالثا عدم الحاجة إلى ضرب التأديب للذي يتأدب مع المولى سبحانه وتعالى ويقوم بحق عبوديته فإذا أخطأ فإننا لا نضربه ضرب التأديب كما قال صلى الله عليه وسلم فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة فإذا كان يتأدب مع الله تعالى يصلي ويقوم بحق العبودية لله تبارك وتعالى فإنه لا يضرب حينئذ ضرب التأديب لأنه يكفي في حقه أن نرشده وأن نعلمه وأن ندله على ما يتوجب فعله وما لا يتوجب فعله ويستجيب حينئذ لأنه يرعى حق الله تعالى. Troisième chose, le fait qu'il n'est pas nécessaire de corriger l'esclave, de corriger celui qui se comporte bien devant Allah tabarak wa ta'ala. Il n'est pas nécessaire de le corriger. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà éduqué vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala. Et le fait qu'il respecte les droits d'Allah tabarak wa ta'ala sur lui en honorant son état de serviteur à Allah jalla wa ala. Donc lorsque ce genre de personne fait une erreur, on n'a pas à la frapper. On n'a pas à la corriger pour l'éduquer. Comme il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on m'a certes interdit de frapper les gens de la prière. Donc les gens qui prient, les gens qui font partie des gens qui prient, eh bien, ceux qui prient, ils sont éduqués vis-à-vis d'Allah. Ils sont humbles devant Allah tabarak wa ta'ala. Ils prient, ils honorent leur devoir, qui est le devoir de la servitude, de l'asservissement à Allah tabarak wa ta'ala. Et donc, on n'a pas à les frapper pour les corriger. On ne parle pas, bien sûr, ici, des punitions ou des sanctions qui sont liées aux peines légales légiférées dans l'islam. On parle des punitions, des sanctions, des corrections que l'on peut faire subir, par exemple, à des enfants, à nos enfants, etc., pour les éduquer. Eh bien, il dit que cela, on n'a pas à faire cela avec eux. Parce que vis-à-vis de lui, il sera suffisant de le conseiller, de lui apprendre des choses, de l'instruire et de lui indiquer ce qui lui est obligatoire et ce qui ne lui est pas obligatoire de faire. Et sache qu'en faisant ça, il va accepter, inshallah ta'ala. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un déjà qui respecte le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala. رابعا في الحديث إشارة إلى تكريم المصلي وصاحب الصلاح والتقوى. أخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم نعفو عن الخاتم يعني إذا قصر وأخطأ. فصمت صلى الله عليه وسلم ثم أعاد الرجل الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فصمت. فلما كان في الثالثة قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وسيأتي ما كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخدمه. Quatrièmement, dans le hadith, il y a une indication sur le fait de respecter et d'honorer celui qui fait partie des gens de la prière et les gens vertueux, les gens pieux, comme l'ont rapporté Abu Dawud et Tirmidhi rahimahumallah, dans une chaîne de transmission qui est authentique, selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui a dit, un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et a dit, ô messager d'Allah, combien de fois nous devons pardonner à l'esclave, au servant, c'est-à-dire lorsqu'il commet une erreur, ou lorsqu'il est négligent envers telle ou telle chose. Le prophète n'a pas répondu et a gardé le silence. Puis cet homme a réitéré sa question. Et le prophète n'a pas répondu, encore une fois. Et lorsque cet homme-là a posé la même question une troisième fois, le prophète il a dit, « U'fu anhu, pardonnez-lui chaque jour 70 fois. » Pardonnez-lui 70 fois par jour. Donc les ulama, ou des ulama, on dit qu'ici, ce n'est pas la quantité des 70 qui doit être prise en compte, mais en gros, le prophète, il nous dit, pardonnez-lui à chaque fois. Pardonnez-lui à chaque fois. Et on verra le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers ceux qui étaient à son service, inshallah. Khamisan, dalilun ala زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا الفانية وعلى إثاره لأصحابه فقد أقبل بغلامين فأعطى عليا واحدا وأعطى أبا ذر الثاني. Cinquièmement, la preuve de l'ascétisme du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est quoi l'ascétisme? Eh bien, c'est le fait de délaisser et de n'accorder yani, aucune importance à ce bas monde et aux choses matérielles. On voit ici donc l'ascétisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de cette dunya qui est éphémère. Et le fait qu'il préférait cela, il préférait yani, donner ces choses-là aux compagnons radiyallahu anhum. Le fait que donc, ce jour-là, il était venu avec deux servants, il a donné un servant à Ali et le second à Abu Dharr رضي الله عنه. وقال الشيخ زيد المدخلي كما فيه وجود احترام أهل الصلاة أي يحترمون فلا يهانون بالضرب ولو كان مملوكا وهو يصلي فإنه يجب أن يحترم ويقدر ولكونه من المصلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن ضرب أهل الصلاة. Il dit, Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, il y a dans ce hadith également l'indication de l'obligation du respect vis-à-vis des gens de la prière. C'est-à-dire, ils doivent être respectés et ne pas être offensés en étant frappés, notamment. Même si ce sont des esclaves. Même si ce sont des esclaves, s'ils font la prière, s'ils font partie des gens de la prière, eh bien, il est obligatoire de les respecter et de ne pas les rabaisser ou les offenser. Naam. Donc, il est obligatoire qu'ils soient respectés et considérés d'une belle manière, car ils font partie des gens de la prière, des gens qui font la prière. Et cela en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on m'a interdit de frapper les gens de la prière. Sadisan zuhdu Abi Dharr wa mahabbatuhu lil khayr wa itharuhu al akhirata 'ala ad dunya fa fahima min wasiyati an nabiy sallallahu alayhi wasallam bi hadha al mamluk khayran fa 'amila ma'ahu a'zama al khayr wa huwa 'itquhu fa asbaha hurran ba'da an kana mamlukan wal hurriyatu ma'nan rafi' bi khilaf al 'abd al mamluk. فإنه سلعة فلم يطمع أبو ذر لا في بيعه ولا في خدمته ولكنه طمع في أجر عتقه فاعتقه. Sixièmement, enfin, l'ascétisme également de Abu Dharr, رضي الله عنه, et son amour pour le bien, et le fait qu'il préfère l'au-delà à la dunya. Donc, il a compris donc à travers la recommandation du prophète عليه الصلاة والسلام en faveur de cet esclave, en bien, et donc il a fait la meilleure action qui soit pour cet esclave-là, qui était de le libérer et de l'affranchir. Donc l'esclave, par cette cause, a été libre, est devenu libre, après qu'il ait été esclave. Et la liberté, bien sûr, est un état qui est élevé, bien sûr, comparé à l'état d'un esclave, qui est, il dit le cheikh, un esclave, c'était une marchandise, d'accord ? C'était un bien matériel, entre guillemets, d'accord ? Donc, Abu Dhar aurait pu le vendre, hein ? Ou aurait pu le garder pour qu'il soit à son service, non ? Il a préféré la récompense de l'au-delà, qui est la récompense de l'affranchissement, qui est le fait de libérer un esclave. Et vous savez qu'en islam, celui qui libère un esclave a une récompense immense auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala, bien sûr à condition qu'il le fasse pour le visage d'Allah, jalla wa ala. Vous voyez ?
Pour son visage. Ouais.
Mais pour Allah. Ça y est ? Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter là, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Et on finira ce chapitre-là jeudi prochain, bi'idhnillah, azza wa jal. Wa l'ilmu inda Allah, wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa sallama taslima. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.